Preuve historique de la résurrection, partie 1. Les preuves historiques de la résurrection du Christ sont très bonnes. Des chercheurs tels que William Lancret, J.P. Moreland, Gary Aberma et d'autres ont particulièrement bien détaillé ces preuves. Le but de cet article est de proposer une sorte de synthèse de certains de leurs points clés et de montrer la force des preuves historiques de la résurrection du Christ. Une méthode couramment utilisée aujourd'hui pour déterminer l'historicité d'un événement et l'inférence vers la meilleure explication. William Lancret décrit cela comme une approche dans laquelle nous commençons par les preuves dont nous disposons, puis en déduisons ce qui, si cela est vrai, fournirait la meilleure explication de ces preuves. En d'autres termes, nous devons considérer un événement comme historique s'il donne la meilleure explication des preuves qui l'entourent. Lorsque nous examinons les preuves, la vérité de la résurrection apparaît très clairement comme la meilleure explication. Il n'existe aucune autre théorie qui puisse même rendre compte des preuves. Il existe donc de solides fondements historiques pour étayer la vérité selon laquelle Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il convient de souligner qu'en établissant l'historicité de la résurrection, nous n'avons pas besoin de supposer que le Nouveau Testament est inspiré par Dieu ou même digne de confiance. Même si je crois à ces choses, nous allons nous concentrer ici sur trois vérités que même les érudits critiques admettent. En d'autres termes, ces trois vérités sont si fortes qu'elles sont acceptées par les historiens sérieux de tous bords. Par conséquent, toute théorie doit être capable de rendre compte de manière adéquate de ces données. Les trois vérités sont 1. Le tombeau dans lequel Jésus a été enterré a été découvert vite par un groupe de femmes le dimanche suivant la crucifixion. 2. Les disciples de Jésus ont eu de véritables expériences avec celui qu'ils croyaient être le Christ ressuscité. 3. Grâce à la prédication de ses disciples, qui avaient la résurrection comme centre, l'Église chrétienne s'est établie et s'est développée. Pratiquement tous les érudits qui traitent de la résurrection, quelle que soit leur école de pensée, approuvent ces trois vérités. Nous verrons que la résurrection du Christ est la meilleure explication pour chacun d'eux individuellement. Mais alors nous verrons, de manière encore plus significative, que lorsque ces faits sont pris ensemble, nous avons un argument encore plus puissant en faveur de la résurrection, parce que le sceptique n'aura pas à expliquer un seul fait historique, mais trois. Ces trois vérités créent une corde à trois cordes fortement tissée qui ne peut être rompue. Le tombeau vide. Pour commencer, quelle est la preuve que le tombeau dans lequel Jésus a été enterré a été découvert vite par un groupe de femmes le dimanche suivant la crucifixion? Premièrement, la résurrection a été prêchée dans la même ville où Jésus avait été enterré peu de temps auparavant. Les disciples de Jésus ne sont pas allés dans un endroit obscur où personne n'avait entendu parler de Jésus pour commencer à prêcher sur la résurrection, mais ont plutôt commencé à prêcher à Jérusalem, la ville même où Jésus était mort et enterré. Ils n'auraient pas pu faire cela si Jésus était encore dans son tombeau, personne ne les aurait cru. Personne ne serait assez fou pour croire qu'un homme était ressuscité d'entre les morts alors que son corps gisait mort dans le tombeau à la vue de tous. Comme l'écrit Paul Alto, la proclamation de la résurrection n'aurait pas pu être maintenue à Jérusalem un seul jour, une seule heure, si le vide du tombeau n'avait pas été établi comme un fait pour toutes les personnes concernées. Deuxièmement, les premiers arguments juifs contre le christianisme admettaient le tombeau vide. Dans Matthieu 28, 11 à 15, il est fait référence à la tentative du juif de réfuter le christianisme en disant que les disciples ont volé le corps. Ceci est significatif car cela montre que les juifs n'ont pas nié le tombeau vide. Au lieu de cela, leur théorie du corps voulait admettait la vérité importante selon laquelle le tombeau était en fait vide. Le Toledo de Josué, une compilation des premiers écrits juifs, est une autre source qui le reconnaît. Il reconnaît que le tombeau était vide et tente de l'expliquer. De plus, nous avons le récit d'un débat du IIe siècle entre un chrétien et un juif, dans lequel il est fait référence au fait que les juifs prétendent que le corps a été volé. Il est donc assez bien établi que les premiers juifs admettaient le tombeau vide. Pourquoi est-ce important? Rappelez-vous que les dirigeants juifs étaient opposés au christianisme. C'étaient des témoins hostiles. En reconnaissant le tombeau vide, ils admettaient la réalité d'un fait qui n'était certainement pas en leur faveur. Alors pourquoi auraient-ils admis que le tombeau était vide à moins que les preuves soient trop solides pour être niées? Le docteur Paul Meyer appelle cela une preuve positive provenant d'une source hostile. En substance, si une source admet un fait qui n'est décidément pas en sa faveur, le fait est authentique. Troisièmement, le récit du tombeau vide dans l'évangile de Marc est basé sur une source provenant des 7 années suivant l'événement qu'il raconte. Cela place les preuves du tombeau vide trop tôt pour être légendaires, et rend beaucoup plus probable qu'elles soient exactes. Quelles en sont les preuves? Je vais énumérer 2 pièces. Un commentateur allemand sur Marc, Rudolf Pesch, souligne que cette source pré-marcanienne ne mentionne jamais le nom du grand prêtre. Cela implique que Caïphe, dont nous savons qu'il était grand prêtre à cette époque, était encore grand prêtre lorsque l'histoire a commencé à circuler. Car s'il avait été écrit après le mandat de Caïphe, son nom aurait dû être utilisé pour le distinguer du prochain grand prêtre. Mais comme Caïphe était grand prêtre de 18 à 37 après J.C., cette histoire a commencé à circuler seulement plus tard que l'an 37 après J.C., dans les 7 années qui ont suivi les événements, comme l'a résumé Michael Horton. En outre, Pesch soutient que puisque les traditions de Paul concernant la dernière scène, écrites en 56, 1 Cor 11, présupposent le récit de Marcan, cela implique que la source de Marcan remonte aux premières années du christianisme, Cray. Ainsi, la première source utilisée par Marc place le témoignage du tombeau vide trop tôt pour être légendaire. Quatrièmement, le tombeau vide est étayé par la fiabilité historique du récit funéraire. Les érudits du NT conviennent que l'histoire de l'enterrement est l'un des faits les mieux établis sur Jésus. L'une des raisons à cela est l'inclusion de Joseph d'Arimathée comme celui qui a enterré le Christ. Joseph était membre du Sanhédrin juif, une sorte de cour suprême juive. Les membres de cette classe dirigeante étaient tout simplement trop connus pour que des histoires fictives à leur sujet puissent être réalisées de cette manière. Cela aurait exposé les chrétiens comme des fraudeurs. Ils n'auraient donc pas pu faire circuler une histoire selon laquelle il aurait enterré Jésus à moins que ce ne soit vrai. De plus, si le récit funéraire était légendaire, on s'attendrait à trouver des traditions contradictoires, ce que nous n'avons pas. Mais comment la fiabilité de l'enterrement de Jésus prouve-t-elle que le tombeau était vide? Parce que le récit de l'enterrement et le récit de la tombe vide ont des liens grammaticaux et linguistiques, indiquant qu'ils constituent un seul récit continu. Par conséquent, si le récit de la sépulture est exact, la tombe vide est probablement également exacte. De plus, si le récit de l'enterrement est exact, alors tout le monde savait où Jésus avait été enterré. Cela aurait été une preuve décisive pour réfuter les premiers chrétiens qui prêchaient la résurrection, car si le tombeau n'avait pas été vide, cela aurait été évite pour tous et les disciples auraient été dénoncés comme des imposteurs au pire, ou comme des fous au mieux. Point. Cinquièmement, le tombeau de Jésus n'a jamais été vénéré comme un sanctuaire. Ceci est frappant car c'était la coutume au 1er siècle d'ériger un sanctuaire sur le site des ossements d'un sanctum. Il y avait au moins 50 citations de ce type à l'époque de Jésus. Puisqu'il n'y avait pas de sanctuaire pour Jésus, cela suggère que ses os n'étaient pas là. Sixièmement, le récit de Marc sur le tombeau vide est simple et ne montre aucun signe de développement légendaire. Cela est très évident lorsque nous le comparons à l'évangile de Pierre, info datant d'environ 125. Cette légende raconte que tous les dirigeants juifs, les gardes romains et de nombreuses personnes de la campagne se sont rassemblés pour assister à la résurrection. Alors trois hommes sortent du tombeau, la tête levée vers les nuages. Puis une croix parlante sort du tombeau. Voilà à quoi ressemble la légende, et nous ne voyons rien de tout cela dans le récit de Marc sur le tombeau vide, ni ailleurs dans les évangiles d'ailleurs. Septièmement, le tombeau a été découvert vite par les femmes. Pourquoi est-ce important? Parce que le témoignage des femmes dans la culture juive du 1er siècle était considéré comme sans valeur. Comme le dit Cray, si l'histoire du tombeau vide était une légende, alors il est fort probable que les disciples masculins auraient été les premiers à découvrir le tombeau vide. Le fait que les femmes méprisées, dont le témoignage était jugé sans valeur, étaient les principales les témoins du tombeau vide ne peuvent être expliqués de manière plausible que si, qu'on le veuille ou non, ils ont réellement été les découvreurs du tombeau vide. En raison des preuves solides de l'existence d'un tombeau vide, la plupart des érudits récents ne le nient pas. D.H. Van Dalen a déclaré, « Il est extrêmement difficile de s'opposer au tombeau vide pour des raisons historiques, ceux qui le nient le font sur la base d'hypothèses théologiques ou philosophiques. » Jacob Kramer, spécialisé dans l'étude de la résurrection et critique du Nouveau Testament, a déclaré, de loin, la plupart des exégètes tiennent fermement à la fiabilité des déclarations bibliques concernant le tombeau vide et il énumère 28 érudits pour étayer ces dires affirmations fantastiques. Je suis sûr que vous avez entendu parler des différentes théories utilisées pour expliquer le tombeau vide, comme celle selon laquelle le corps aurait été volé. Mais ces théories sont aujourd'hui ridiculisées par tous les érudits sérieux. En fait, elles sont considérées comme mortes et réfutées depuis près de 100 ans. Par exemple, les Juifs ou les Romains n'avaient aucune raison de voler le corps, ils voulaient supprimer le christianisme, et non l'encourager en lui fournissant un tombeau vide. Les disciples n'auraient eu aucun motif non plus. À cause de leur prédication sur la résurrection, ils furent battus, tués et persécutés. Pourquoi subiraient-ils tout cela pour un mensonge délibéré? Aucun érudit sérieux ne soutient aujourd'hui aucune de ces théories. Quelle explication proposent alors les critiques, me demanderez-vous? Cray nous dit qu'il l'avoue sans aucune explication à offrir. Il n'y a tout simplement aucune explication naturelle plausible aujourd'hui pour expliquer que le tombeau de Jésus soit vide. Si nous nions la résurrection de Jésus, nous nous retrouvons avec un mystère inexplicable. La résurrection de Jésus n'est pas seulement la meilleure explication du tombeau vide, c'est la seule explication en ville. Les apparitions de la résurrection. Ensuite, il est évident que les disciples de Jésus ont eu des expériences réelles avec celui qu'ils croyaient être le Christ ressuscité. Ceci n'est pas couramment contesté aujourd'hui parce que nous avons le témoignage des premiers disciples eux-mêmes selon lesquels ils ont revu Jésus vivant. Et vous n'avez pas besoin de croire à la fiabilité des évangiles pour croire cela. Dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8, Paul rapporte un ancien credo concernant les apparitions de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus qui est bien antérieur à la lettre dans laquelle Paul l'enregistre, « Car je vous ai livré comme première importance ce que j'ai aussi reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est généralement admis par les érudits critiques que Paul a reçu ce credo de Pierre et Jacques entre 3 et 5 ans après la crucifixion. Or, Pierre et Jacques sont répertoriés dans ce credo comme ayant vu le Christ ressuscité. Puisque ce sont eux qui ont donné ce credo à Paul, ceci est donc une déclaration de leur propre témoignage. Comme l'a dit l'érudit juif Pinchalapide, ce credo peut être considéré comme la déclaration de témoins oculaires. Maintenant, je reconnais que ce n'est pas parce que les disciples pensent avoir vu Jésus qu'ils l'ont réellement fait. Il existe trois alternatives possibles. 1. Ils mentaient. 2. Ils ont halluciné. 3. Ils ont vraiment vu le Christ ressuscité. Lequel de ces éléments est le plus probable? Est-ce qu'ils mentaient? De ce point de vue, les disciples savaient que Jésus n'était pas vraiment ressuscité, mais ils ont inventé cette histoire de résurrection. Mais alors pourquoi 10 des disciples sont-ils volontairement morts en martyrs pour leur croyance en la résurrection? Les gens mourront souvent pour un mensonge qu'ils croient être la vérité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, les disciples le savaient. Ainsi, ils ne seraient pas simplement morts d'un mensonge qu'ils croyaient à tort être vrai. Ils seraient morts d'un mensonge qu'ils savaient être un mensonge. 10 personnes ne donneraient pas toute leur vie pour quelque chose qu'elles savent être un mensonge. De plus, après avoir été témoins d'événements tels que le Watergate, pouvons-nous raisonnablement croire que les disciples auraient pu dissimuler un tel mensonge? En raison de l'absurdité de la théorie selon laquelle les disciples mentaient, nous pouvons comprendre pourquoi presque tous les érudits admettent aujourd'hui que, au moins, les disciples croyaient au moins que Jésus leur était apparu. Mais nous savons que le simple fait de croire qu'une chose est vraie ne la rend pas vraie. Peut-être les disciples avaient-ils tort et avaient-ils été trompés par une hallucination? La théorie des hallucinations est intenable car elle ne peut expliquer la nature physique des apparences. Les disciples rapportent avoir mangé et bu avec Jésus, ainsi que le toucher. Cela ne peut pas être fait avec des hallucinations. Deuxièmement, il est très peu probable qu'ils aient tous eu la même hallucination. Les hallucinations sont des projections hautement individuelles et non collectives. Imaginez si je venais ici et vous disais, n'était-ce pas un grand rêve que j'ai fait la nuit dernière? Les hallucinations, comme les rêves, ne se transmettent généralement pas ainsi. De plus, la théorie des hallucinations ne peut expliquer la conversion de Paul, 3 ans plus tard. Paul, le persécuteur des chrétiens, espérait-il tellement voir Jésus ressuscité que son esprit a également inventé une apparence? Et peut-être plus important encore, la théorie des hallucinations ne peut même pas prendre en compte les preuves de la tombe vide. Puisque les disciples ne pouvaient pas mentir ou avoir des hallucinations, il ne nous reste qu'une seule explication possible, les disciples croyaient avoir vu Jésus ressuscité parce qu'ils avaient réellement vu Jésus ressuscité. Ainsi, les apparitions de résurrection démontrent à elles seules la résurrection. Ainsi, si nous rejetons la résurrection, nous nous retrouvons avec un deuxième mystère inexplicable, d'abord le tombeau vide et maintenant les apparences. À suivre dans la seconde partie de preuves historiques de la résurrection, qui parlera de l'origine de la foi chrétienne, de 3 faits indépendants, est-ce une légende et de l'importance de la résurrection. Pascal Cusson. Mars 2024.